Radio Divan. Pour une psychanalyse populaire,
l'émission de Guylaine Dubois
et Lucas Bielli,
produite et réalisée par
FM+.
Les chemins qui mènent à la pratique du métier de psychanalyste sont loin d'être standardisés. Certes, une analyse personnelle en est le passage obligé, mais se lever du divan pour occuper le fauteuil de l'analyste n'est pas le but d'une analyse. La plupart des analysants entrent en analyse pour moins souffrir et certains d'entre eux y ajoutent le désir de devenir eux-mêmes psychanalystes. Avec Lucas Bielli. Bonjour Lucas.
Bonjour Guylaine.
Nous allons aujourd'hui suivre le parcours d'une psychanalyste, Lydia Ledigue. Bonjour Lydia.
Bonjour Guylaine.
Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation radiophonique pour évoquer votre parcours qui vous a mené à cette pratique professionnelle de la psychanalyse. Alors Lydia Ledigue, pour évoquer avec vous cette trajectoire de vie professionnelle, faut-il commencer par le début de votre carrière ou parler de votre pratique actuelle pour en retrouver les origines ?
Hein? Je ne sais pas.
Ouais, vous savez pas.
Non.
Est-ce qu'on commence par ce qui est déjà là pour se dire, tiens, c'est arrivé parce que voilà tout ce qui s'est passé avant, plutôt que de dérouler dans le sens inverse?
Bon, je pense que c'est chronologique, cette histoire, quand même. C'est une histoire de vie. Ça s'inscrit dans une histoire de vie.
Alors, on commencerait par quel événement qui vous aurait conduit à la psychanalyse?
J'aime bien vieux collègue, un de mes maîtres, qui disait « Où on a glissé sur une peau de banane, mais alors le problème, c'est de trouver une valise qui a une poignée, quoi. » Et il y a une poignée, un jour, qui se présente pour entrer dans un cabinet de psychanalyste.
Cette poignée est restée solide, manifestement.
Oui.
Ça fait longtemps que vous avez commencé ?
Oui, un certain nombre d'années, oui, bien sûr.
Est-ce que ce que vous aviez fait avant vous a, comment dire, conduit presque naturellement ou est-ce que ça n'avait rien à voir et comme vous dites c'est juste la valise qui était là que vous avez prise?
Non, j'ai lu Freud à l'âge de 15 ans quand même, donc ça m'avait interpellée. À l'époque, je pensais que c'était pas pour moi, c'était trop intellectuel, j'étais pas issue d'un milieu où je pouvais me permettre de m'intéresser à la psychanalyse d'un peu plus près. C'est les livres, moi, en fait, au départ. Et c'est vrai que quand j'ai glissé sur une peau de banane, comme j'aime à dire, c'est là que j'ai osé, ça s'est imposé à moi, quoi.
Alors, cette peau de banane, on peut en parler un peu plus ou est-ce que ça reste de l'ordre de l'intime?
Oh, je peux dire que j'ai fait une dépression grave et brutale, oui.
Donc ça passe, oui, par une étape de vie difficile.
Voilà. Ouais. C'est pas possible autrement, de mon point de vue. C'est un point de vue que je partage avec beaucoup d'autres. Mais oui, faire une psychanalyse nécessite d'avoir une bonne raison de le faire, parce que c'est un travail, ça s'appelle travail psychanalytique, ça n'est pas pour rien.
Faire une analyse comme ça, pour le plaisir, gratuitement, c'est de l'utopie. Non.
Ça se paye, ça se travaille, c'est un long combat, un chemin semé d'embûches, difficile. Faut avoir le courage d'aller voir, d'aller rencontrer ces monstres, la dimension obscure de notre personnalité.
En tout cas, c'est vrai que moi, j'aime souvent à comparer ce que vous venez de décrire, un peu comme une sorte de descente aux enfers, si on reprend le mythe d'Orphée. Vous voyez, il y a tout un dépouillement, ou alors les 12 travaux d'Hercule. On doit passer des épreuves, l'une à l'autre, qui se terminent encore une fois par les enfers, avant de remonter, justement, dépouillé de certaines choses, dépouillé de soi, et enrichi de nouvelles choses.
Oui, oui, oui. On peut le dire comme ça, bien sûr.
Vous aviez exercé un métier précédemment, la psychanalyse, le métier de psychanalyste, si vous appelez ça un métier.
Oui, j'appelle pas trop ça un métier, hein. Mmh. Mais non, chez les psychanalystes, je suis ce qu'on appelle une nini, ni psychologue, ni psychiatre. J'étais éducatrice spécialisée.
Mmh. Alors, j'aime aussi beaucoup cette expression que je vous ai déjà entendue dire, nini. Justement, ça, est-ce que ça donne une place particulière? Comment vous pourriez identifier cette place de nini, justement?
Mais la place de nini, il y a plusieurs aspects à cette place. Elle est, vis-à-vis des collègues, elle est un peu délicate, socialement, je dirais. Elle n'est pas facile. Parce que bon, il faut faire sa place plus sans doute que si on est psychologue ou psychiatre, mais je dois dire que à l'usage, j'ai repéré chez mes collègues psychiatres ou psychologues de grandes difficultés à se débarrasser de leur culture d'origine, leur culture professionnelle d'origine. Un psychiatre doit quand même se débarrasser de tout, de sa démarche psychopathologique de médecin dans la relation d'aide. Et le psychologue, du carcan psychologique. Moi, je me sens pas du tout, d'ailleurs, proche des psychologues.
Le fait que pour un psychanalyste, il y a cette démarche analytique qui précède la pratique, est-ce que c'est pas justement là où se joue cette différence? Vous êtes peut-être nini, mais vous êtes aussi avec.
Avec la psychanalyse, vous voulez dire?
Oui.
Ah bah oui, évidemment, on est dedans, hein.
Ouais.
C'est quand même, on est immergé. Hein. Une fois qu'on a rencontré l'inconscient, qu'on fonctionne avec, je me sentais complètement immergé. Je me sens encore d'ailleurs, mais c'est moins prégnant, j'ai adopté la posture.
Alors, quand on parle de psychanalyse, on parle évidemment diverses écoles, mouvements, etc. Ouais. Est-ce que, de votre côté, c'est quelque chose d'important et est-ce qu'il y en a une en particulier qui vous a plus, on va dire, elle est émerveillée que d'autres?
Non, émerveillée, c'est pas le mot, c'est une histoire de parcours. L'institution analytique qui est obligatoire, je considère qu'elle est obligatoire quand on exerce, est un parcours qui prolonge la cure. C'est complètement lié de mon point de vue. C'est-à-dire que les groupes de psychanalystes avec lesquels on est plus ou moins dans l'obligation de travailler sont parcourus de relations transférentielles bien compliquées. En psychanalyse, il y a un arbre généalogique. On fait partie de cette généalogie. Donc mon parcours il est singulier comme celui de tous les autres analystes et ponctué de transferts.
Alors Lydia Ledigue, vous êtes psychanalyste, vous êtes à Montpellier, mais vous êtes aussi souvent ailleurs qu'à Montpellier.
Oui. Oui.
Et le choix musical que vous nous avez proposé va aller dans ce sens. Peut-être qu'on peut déjà, peut-être pouvez-vous déjà nous dire quel est ce lieu différent de Montpellier et qu'est-ce qui vous y a amené?
Ben, j'exerce actuellement à Dakar, au Sénégal. J'habite la maison de Djibril Diop Mambéty, qui est un grand cinéaste sénégalais, et son frère Oasis Diop est musicien, donc j'ai choisi une musique de Oasis Diop, de son dernier disque qui s'appelle Yabon, qui fait référence au bonhomme noir qu'on voit sur les boîtes de chocolat, enfin qu'on voyait, c'était ma jeunesse, hein, les premières boîtes de chocolat en poudre avec le bonhomme Yabon qui rappelait tant la colonisation et qui est beaucoup décrié par les anticolonialistes maintenant. Et Oasis a choisi de le démythifier un peu en disant qu'il a une bonne tête, qu'il rigole et que après tout, voilà, on peut se réconcilier avec ce bonhomme qui était un Africain. Peut-être réconciliateur.
Donc on va écouter Oasis Diop, Yabon, pour nous embarquer au Sénégal.
La guerre me tranchée. Je m'appelle Djibril Diop Mambéty. Je suis né dans les pays chauds. J'ai traversé l'Atlantique pour aller faire la guerre en métropole. On se moquait de moi, j'avais les dents trop blanches. Je ne parlais pas français, français. Je n'avais pas de cornes de gaulois, j'avais des gris-gris. Mon grand-père m'avait dit, cette fois-ci, mon fils, tes gris-gris ne pourront pas te sauver. Il y avait la pluie, la faim, le bruit des mortiers, le cri des soldats qui se meurent. Je me souviens de mon ami Fabien. Il m'a parlé du bon vin, de la Loire qui me rappelle. Le vin de palme qui pisse un autre sur les marchés de Casamance.
De retour sur FM+, dans l'émission Radio Divan, animée par Lucas Bielli et moi-même. Pour cette émission, nous recevons la psychanalyste Lydia Ledig. Et cette musique de Oasis Diop, Yabon, nous introduit rapidement dans l'univers dakarois où vous exercez, Lydia Ledig.
Oui.
Alors, vous y exercez comment à Dakar?
Je sais pas trop vous dire. Hein.
Ouais.
Cet exercice me demande... Je pense beaucoup de créativité.
D'exercer là-bas?
Oui,
ouais,
oui, bien sûr, oui. Voilà, j'exerce comment, comme je peux.
C'est une créativité qui s'orienterait vers comment elle s'oriente? Vers quoi? Dans quoi? Dans votre posture? Dans la façon de parler de la psychanalyse? Où est-ce qu'elle se loge, cette créativité?
J'ai envie de vous dire que c'est les patients qui m'apprennent, comme ici d'ailleurs. Hein. Mm-hmm. C'est les patients qui m'apprennent, qui m'invitent à adopter un autre style que le style que je pouvais avoir ici. Bon, on dit souvent quand même que les psychanalystes sont amenés à créer leur propre style. Hein. C'est ce que je fais là-bas avec mes patients. Il y a une manière d'aborder... le divan, le cabinet, extrêmement différente ici. Et puis après, bon, il y a beaucoup la question de la langue quand même qui m'oblige, à avoir une autre posture, hein, étant donné que je connais pas la langue sénégalaise, enfin les langues sénégalaises, parce qu'il y en a de très nombreuses qui sont inscrites dans chacun de mes patients, hein, d'une manière. La langue maternelle, c'est la langue d'origine, hein, donc le peul, le wolof, le sérère. Et ensuite, voilà, des problématiques culturelles, religieuses, voilà, que j'aborde à ma façon, voilà, que je pourrais pas trop bien décrire, mais voilà.
Et oui, alors moi j'aimerais savoir une chose. Est-ce que justement, confronté à des personnes qui sont différentes d'ici, est-ce que vous notez aussi des censures ou des barrières différentes dans l'inconscient? Donc, pour les auditeurs, c'est ce qui peut empêcher les pensées ou les blocages. Et vous-même, est-ce que votre posture, votre manière de parler est un peu plus musicale, si j'ose dire? Est-ce que votre imagination doit aller plus loin pour essayer de capter justement tout ce qui pourrait être chez l'autre dans ce pays d'Afrique?
J'ai envie de vous dire, mon inconscient, il est en direct avec les personnes comme ici, sinon je pourrais pas. Je suis moi-même d'origine étrangère en France. Donc, bon, c'est quelque chose... Peut-être que c'est ça que j'ai cherché en allant là-bas, justement. Ensuite, j'ai envie de vous dire, on retrouve les mêmes structures et les mêmes manières de réagir à la vie. Sauf que elles n'ont pas pris le même chemin. J'ai envie de vous dire ça comme ça. Mais on n'est jamais très très étonné quand même de ce qu'on découvre dans la structure des gens, leur manière de s'adapter à leur vie. Bon, il y a quelques symptômes qui sont très différents d'ici. Mais par exemple, j'ai eu la surprise de découvrir beaucoup d'hystérie de conversion, ce qu'on appelle l'hystérie de conversion, ce que Freud avait repéré. Les premiers malades de Freud étaient des personnes atteintes d'hystérie de conversion. Bon, ici, on a l'hystérie de conversion, c'est les personnes de structure hystérique qui produisent des symptômes tels que des paralysies, des cécités, etc. Et donc ça, par exemple, c'est extrêmement courant. Et bon, et en France, on a envie de dire, ça a disparu depuis le 19e siècle. Hein. Donc pourquoi c'est si prégnant au Sénégal? Voilà, j'ai des travaux en cours sur beaucoup de choses comme ça.
Comment est-ce qu'un psychanalyste est perçu dans la société du Sénégal, dakaroise? J'imagine que ça peut être différent dans des villages.
Dans les villages, on n'en parle pas, bon, la question de l'inconscient est pas du tout évidente à partager. Hein. Voilà, comme chez certains patients français, c'est-à-dire que ça prend du temps. Mais la question de l'inconscient, elle est obligée d'aller flirter, j'ai envie de dire, là-bas, avec la question du mystique, qui est extrêmement présent. Donc c'est à travers la culture, le mysticisme qu'on rencontre au Sénégal, qu'on croise la question de l'inconscient avec les patients, plutôt.
Quand vous dites mystique, est-ce que vous faites allusion à tout ce qui est marabout, ou est-ce que c'est encore autre chose, ou est-ce que c'est de l'animisme?
C'est les deux. Hein, la plupart des Sénégalais ont une culture mystique d'origine, en fonction de leur origine culturelle, qui est mêlée à la religion musulmane. Complètement, c'est étroitement mêlé. Les gris-gris, les fétiches, etc., sont truffés maintenant d'extraits du Coran. Donc tout ça est largement mélangé. Si on traîne pas, quand on est psychanalyste dans ces choses-là, on accède à pas grand-chose chez les personnes.
La religion est, on le sait, est à 98% la religion, l'islam, est la religion qui est représentée à 98% dans ce pays-là. Est-ce que ça fait barrière à l'accès à l'inconscient, à la pratique de la psychanalyse? Comment est-ce que vous débrouillez de ça?
Moi, j'ai mon interprétation que je partage pas avec tout le monde, mais je dirais exactement comme en France. La croyance religieuse vient boucher plein de choses. Hein, c'est-à-dire que, bon, quand on a Dieu le Père, on a beaucoup d'explications qui n'ont pas besoin d'autres explications que l'intérêt religieux. Hein. Bon, voilà, là-bas, c'est exactement pareil. La religion, je dirais, au Sénégal, on dit tout le temps Inch'Allah. Bon, Inch'Allah, c'est Dieu, et c'est Dieu qui va décider. Donc, la question du sujet, c'est-à-dire s'emparer de son destin, de sa vie, elle est un peu différente, elle est un peu interprétée différemment. Mais quand même, il y a des ouvertures. J'ai une patiente, j'ai trouvé que c'était une très belle issue, qui m'a dit il n'y a pas longtemps, j'ai compris qu'il fallait pas que je... Alors que c'est pas moi qui lui ai suggéré, qu'il fallait pas que je croie aveuglément, donc je vais me mettre à l'arabe et ainsi je pourrai interpréter moi-même le Coran. Bon, je trouve que c'est un joli résultat d'une démarche analytique.
Et tout à fait, reprendre les rênes sur son destin quelque part aussi. Et peut-être que cette personne a été aussi poussée par une pulsion épistémologique. Ce qui veut dire, la pulsion épistémologique pour nos auditeurs, c'est la soif d'apprendre, la soif de connaître, et au final la soif de mieux se connaître soi-même. Au final, si on cherche à connaître les choses, c'est par essence pour se connaître soi-même. Vous avez d'autres cas comme ça qui vous viennent à l'esprit?
Non, non. Comme, pour répondre à quoi? Le bien fondé de la psychanalyse, vous voulez dire?
Je crois.
Non, du tout, du tout. Non, non, je voulais dire justement par rapport là, nous étions donc sur le sujet de la religion, nous étions sur le sujet aussi des mythes et croyances que peuvent avoir différents peuples, mais ça c'est sur, sur toute la surface du globe, on peut le retrouver à différentes manières. Tout à l'heure vous disiez aussi, à juste titre, que nous aussi en France, nous avons une mainmise aussi de la religion, on peut aussi décrire la science comme une nouvelle religion, et les gens vont toujours finalement projeter par exemple sur le psychanalyse, soit des angoisses de se dire... mon petit confort est bien, je n'ai pas besoin d'aide, j'ai ceci, j'ai cela, et au final, toujours continuer dans un cercle non vertueux et pas oser un peu crever l'abcès.
J'ai envie de vous dire, il y a deux difficultés d'être psychanalyste au Sénégal. Enfin, j'en ai repéré deux qui me paraissent essentielles. D'abord, Freud était juif. Les Sénégalais sont 98% musulmans. Ceux qui viennent me voir, la plupart, c'est des gens érudits. Effectivement, ils savent bien ce qu'ils viennent faire. Voilà. Donc, c'est un peu transgressif pour eux, quand même. Et il y a une deuxième chose, c'est que Freud est réputé avoir parlé sexualité. Donc, j'ai énormément de... Enfin, la majorité de mes patients viennent pour des problématiques d'ordre sexuel. La plupart du temps, ils ont été victimes d'abus sexuels. Ils n'ont pas de lieu pour en parler, pour l'évoquer, puisqu'ils sont pris dans le carcan familial et religieux. Et donc, je pense que venir voir une blanche, une toubab, comme on dit là-bas, c'est venir voir quelqu'un qui gardera le secret, et en tous les cas, qui ne diffusera pas à la famille.
D'accord, donc quelque part, vous leur permettez de vous livrer leur traumatisme, peut-être des choses qu'ils ne peuvent dire à personne d'autre et qui les pèsent depuis... Des années.
Comme tout psychanalyste, hein, normalement. On n'est pas là pour diffuser de la morale ou un cadre. On est là pour... On est censé pouvoir tout entendre.
Ah, mais vous recevez le gros colis en entier d'un seul coup. Après, tous les patients n'ont pas vécu forcément de gros traumatismes. Mais c'était pour rebondir sur ce que vous veniez de dire, c'est-à-dire ces traumatismes qu'ils ont.
Le gros d'un seul coup, pas forcément d'un seul coup, déjà. Et puis, l'abus sexuel, ça fait partie quand même de ce qu'on peut entendre la plupart du temps.
Donc là, nous sommes du côté des patients. Qu'en est-il de vos collègues peut-être sénégalais qui auraient fait une psychanalyse, seraient devenus psychanalystes? Comment est-ce qu'il y a des relations avec ces personnels-là, avec cette personne-là?
Il n'y en a pas. J'ai travaillé à l'hôpital en psychiatrie. Les collègues psychiatres sont formés à partir du DSM pour le diagnostic et l'ordonnance. Donc, ils ont entendu parler de la psychanalyse, mais bon, de là, non, ils n'ont pas fait de psychanalyse. Quelques psychologues qui se disent psychanalystes, mais bon, je sais pas trop, mais bon, j'ai pas rencontré d'interlocuteurs. Mes principaux interlocuteurs sont plutôt les philosophes et les littéraires.
Si vous aviez à choisir entre travailler en France ou travailler au Sénégal, vers où vous dirigeriez-vous?
Disons que mon parcours m'a amené tout naturellement à aller chercher des choses au Sénégal. Pour l'instant, j'y suis. Je sais pas. Je suis mon chemin.
Je vous propose de continuer à être dans le Sénégal avec votre deuxième choix musical. Une œuvre artistique qu'on entend beaucoup chanter au Sénégal. On écoute.
Lineho, lineho, uyo linelelo manamene manawanzeu. Lineho,
line, lineho, uyo linelelo manamene manawanzeu. Kukajama mawa amatengazaje kuseza bakomo bakomo pamaiwaje.
Gaja mama.
Early morning.
Amadinga tagi. Kuse sabako mo bakomo. La mairage. Magolo ali.
Magolo ali.
Amuya mikila.
Akutini nerero mana mene. Mana wanzero.
Magolo ali.
Magolo ali.
Amuya mikila.
Akutini nerero mana mene. Mana wanzero. Mwana wanzeru
Tinde 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 Gogo na madingo, namu ya mikira, kudi na madingo mana mene, mana wanze. Agide gogo na madingo, namu ya mikira,
kudi na madingo mana mene.
Radio Divan avec Lydia Ledig, notre invitée, l'invitée de Lucas Bielli et de moi-même. Nous évoquons le Sénégal, nous évoquons la pratique psychanalytique à Dakar précisément, parce que Lydia travaille à Dakar. Elle nous a proposé dans ce deuxième choix musical Gide Chalamanda, Lini Yo. Alors c'est un tube là-bas au Sénégal, à Dakar, que vous avez beaucoup entendu, ce dernier tube, non?
Pas forcément. Je l'ai beaucoup aimé, surtout.
Beaucoup aimé. Alors, nous évoquions, juste avant ce musical, votre pratique à Dakar, les raisons pour lesquelles des patients viennent vous voir, avec ce que vous représentez de la psychanalyse et de ses origines. Comment est-ce qu'on peut encore aller plus loin dans cette pratique-là, psychanalytique à Dakar? Comment est-ce que vous continuez à travailler ces thématiques-là ou
Comment ça se passe là-bas? Comme beaucoup de psychanalystes, quand on a commencé, on n'arrête jamais, on n'a jamais fini. Donc je poursuis mon parcours. Il se trouve qu'en France, mes collègues me disaient « tu nous casses les pieds avec l'Afrique ». Vas-y.
Ouais, d'accord.
Donc, j'ai fini par l'entendre. Avant, je suis allée travailler à l'île de la Réunion, en Guyane, Haïti. J'ai parcouru beaucoup d'endroits qui venaient bousculer ma pratique, qui m'obligeaient à faire un pas de côté. En fait, c'est à partir de la question de l'homoparentalité qui a surgi en France de manière un peu bruyante il y a maintenant quelques années, que j'étais obligée de me questionner. Et j'ai travaillé avec des collègues françaises qui m'a amenée à travailler sur la question de la structure familiale et les incidences psychiques qu'elles pouvaient avoir sur chacun d'entre nous.
Donc là, vous avez dit structure familiale. Mmh. Qu'est-ce que c'est exactement?
La structure familiale.
Ah, la structure, pardon.
En France, on est bâti sur la structure nucléaire, papa, maman, les enfants. Bon, il se trouve qu'il y a plein d'endroits où la famille se décline tout à fait autrement. Et j'avais envie d'aller, en tant que formatrice, je suis allée donc en Guyane, dans d'autres endroits où se manifeste beaucoup de cultures différentes. Et dans ce parcours de recherche personnelle, je suis tombée sur une revue qui s'appelle Psychanalyse et tradition africaine, qui m'a passionnée, que j'ai trouvée d'une belle consistance intellectuelle. Et cette revue était issue des psychiatres de l'hôpital Fan à Dakar. Elle a été menée en dernier par, parce qu'elle n'existe plus malheureusement, d'autres pratiques ont supplanté la psychanalyse à l'hôpital Fan. Et le dernier rédacteur en chef était Mo Marguet, que j'ai rencontré, avec qui j'ai beaucoup parlé, et qui m'a donné envie de venir là-bas, voir là-bas si j'y étais, quoi, en gros. Mmh. Hein. Donc j'ai pas intégré l'hôpital Fan, puisque l'hôpital Fan adopte maintenant d'autres thérapies, plutôt systémiques, comportementales. Et peu de psychiatres s'intéressent maintenant à la psychanalyse. Mais bon, j'avais envie d'aller voir quand même là-bas. Et voilà. Donc, je continue de travailler sur la question des structures familiales et leur incidence sur la vie psychique. Mmh. Voilà.
Ça, c'est vraiment votre sujet d'étude à travers personnel, la clinique et personnel.
Disons que je me sentais vraiment très à l'étroit dans le DIP tel que il est décliné par Freud et Lacan, et donc là effectivement on est obligé de penser un peu, d'élargir un peu sa pensée avec cet Oedipe que je trouve extrêmement enfermant. Bon, je suis pas la seule, il y a d'autres psychanalystes français qui font des recherches mais qui sont pas les plus usités, puisque DIP c'est pratique, ça c'est vulgarisé, tout le monde peut en parler facilement, mais bon, moi je commençais à m'y sentir à l'étroit. Notamment, c'est une patiente en France que j'ai écoutée pendant nombreuses années en France qui m'a obligée vraiment à qui m'a obligée à faire des pas de côté avec cette question. Et à être créative et qui m'a vraiment obligée à penser les références familiales autrement.
Voilà. La psychanalyse peut être universelle, mais en même temps, il y a une adaptation à entendre de la part des patients qu'on reçoit.
Oui, il y a l'inconscient est universel. Voilà, c'est pas la psychanalyse, c'est l'inconscient. Donc après, la psychanalyse, on peut la décliner différemment. Moi, j'ai quand on m'a demandé au début au Sénégal, j'avais absolument pas la prétention d'ouvrir un cabinet, mais bon, j'ai reçu des demandes. Donc je l'ai fait. À l'époque, je vivais dans une cabane de pêcheurs au bord de la mer. Mes premiers patients, je les ai reçus sur ma terrasse. Avec le bruit des vagues. Bon, je veux dire, c'est alors bon, il y a beaucoup qui vont crier.
Le cadre.
Voilà, le cadre, le dogme. Voilà, si on veut, alors peut-être je fais plus de psychanalyse. Moi, je considère que dans la mesure où je fonctionne avec mon inconscient et celui de mes patients, c'est de la psychanalyse.
Alors moi, je suis complètement d'accord. Enfin, sur ce point de vue-là, au niveau du cadre, c'est vrai qu'on est dans une structure un peu qui date un peu de l'époque victorienne jusqu'à de nos jours. Donc, on est typiquement européen. Et si on va en Afrique, au bord de la mer, par exemple, ou si on remonte, il y a 2500 ans, on est en Grèce, Socrate qui parle, qui faisait un peu de la psychanalyse avant-gardiste, si l'on peut dire, la maïotique, par exemple. Il n'est pas enfermé dans une pièce. Si vous voulez, il marche dans la rue, il discute en marchant. Mais pourtant, il y a tout un travail qui se fait quand même. Et chaque chose est adaptée à son époque et à l'endroit où on est.
Oui, même Freud allait se balader en forêt avec Malheur, je crois. Et c'était ses séances. On n'en parle pas beaucoup. J'ai reçu des témoignages de patients, en particulier d'une patiente qui m'a raconté que Lacan, la trouvant mal au téléphone, est venu jusque chez elle. Voilà, ça on n'en parle pas beaucoup. On va dire qu'en France, l'école de la cause freudienne a un peu la main mise sur le dogme analytique et que ces intellectuels sont un peu dogmatiques, je trouve. Bon, Lacan est mort en 1981, depuis il s'est passé quand même beaucoup de choses.
Ouais, ça évolue. On attendrait peut-être que la psychanalyse évolue aussi, en tout cas dans sa pratique.
Alors, j'ai envie de dire, on me dit aussi souvent que la référence en la matière, c'est Toby Nathan, l'ethnopsychiatrie, etc. Bon, je m'y retrouve pas souvent parce que je trouve que tout ça est souvent basé sur les migrants qu'on rencontre en France, et Marie-Rose Moreau, Toby Nathan sont des gens qui ont beaucoup de mérite dans le domaine, mais qui maintenant travaillent beaucoup La question des migrants, bon, quand on est sur le terrain, c'est pas tout à fait la même chose. Et les Sénégalais, en particulier, ont beaucoup, beaucoup évolué par rapport à la tradition, à leur tradition, et sont pris d'une manière extrêmement complexe entre la tradition occidentale et leur tradition. Et bon, cette question-là, elle se décrit pas du tout de la même façon sur le sol sénégalais que sur le sol français. Et Lacan disait lui-même, on pense là où on a les pieds. Et j'ai toujours aimé cette expression de Lacan, puisque c'est elle qui m'a invité à quitter la France pour aller au Sénégal.
Merci beaucoup pour ces paroles fortes et authentiques. Est-ce qu'il y a encore des aspects de votre pratique que vous aimeriez partager ici ou de votre présence là-bas au Sénégal qu'on n'aurait peut-être pas suffisamment évoqué dans ce temps qui nous était imparti?
Non, je m'en remets à vos questions. J'ai pas d'autres choses à dire. Merci.
Lucas?
Oui, alors une dernière question d'ouverture sur l'actualité. En ce moment, en Afrique, les cartes sont en train d'être rebattues. Comment est-ce que vous percevez cela à Dakar?
Oh, je vais vous dire, j'y comprends rien du tout. Je suis en lien avec beaucoup d'intellectuels là-bas, des politiciens. J'ai dans mon cabinet des gens qui font de la politique d'une manière très... qui sont engagés politiquement. Et je vous avouerai que je pense que ce qui se passe est obscur. Et les médias n'en relatent pas les tenants et les aboutissants d'une manière exhaustive et claire. Je ne sais pas si quelqu'un y comprend vraiment quelque chose.
D'accord. Et au-delà de comprendre, est-ce que vous sentez au niveau de vos balades dans la ville ou une ferveur de la population, ou des petits bruits, comment les gens interagissent, justement?
Au Sénégal, actuellement, il y a une grande problématique entre le président Macky Sall et son opposant politique favori, je dirais. J'ai envie de dire ça comme ça. Donc, il y a des moments un peu chaotiques, même beaucoup, très chaotiques. Il y a eu 19 morts au mois de juin. Les élections sont prévues en février 2024, donc au Sénégal, tout le monde est très inquiet. Voilà, qu'est-ce que je sais pas, mais le bruit anti-français là-bas, je l'entends pas du tout. Hein. Les musulmans sénégalais, c'est des soufistes, c'est des gens quand même extrêmement tolérants et pacifistes. La violence qui éclate actuellement leur ressemble pas du tout. Je trouve. Mais eux aussi, ils se demandent ce qui leur arrive quand même.
Merci, Lydia Loding, pour cette émission Radio Divan que nous avons partagée. Au revoir, Lucas. À très vite. Et puis nous, Lydia, on se revoit peut-être bientôt sur cette antenne.
Au revoir. Merci à vous. Au revoir.
Au revoir.
C'était Lucas Bielli et Guylaine Dubois pour Radio Divan, une émission produite et réalisée par FM+.
Sur une musique originale de William Balfour,
à retrouver sur radiofmplus.org, sur YouTube et Deezer.